Bonsoir. Arrestation du député national Jean-Bertrand Ewanga, la délégation de l'Union européenne en RDC s'est dit préoccupée. Elle est allée le dire ce jeudi au président de l'Assemblée nationale, Obemi Nakou. Clôture mercredi dernier à Washington du sommet États-Unis-Afrique. Lors de ce sommet, le président américain a annoncé notamment la mobilisation de plus de 30 milliards de dollars à titre d'aide publique et d'investissement privé à destination de l'Afrique. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous aurons autour de cette table Baudouin Saïle Mbalanga. Il est éditeur du journal La Chopo qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Baudouin Saïle Mbalanga.
Bonsoir Radio Capri, bonsoir à tous les confrères, bonsoir à toute la population.
John Ngomboa, il est directeur des informations à Antenne A, télévision émettant depuis Kinshasa. Bonsoir John Ngomboa.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux confrères, bonsoir à tous les publics qui nous suivent à travers Kinshasa, les Congos et plus loin.
Patient Debaba Lukira, secrétaire de la synergie des médias d'Ouvira et des Fizi Simus en sigle, et correspondant de l'ONG Journaliste en danger Sifia Grand Lac au sud de Kivu. Bonsoir Patient Debaba Lukira.
Bonsoir chers confrères et bonsoir à tous les invités de la Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Les ambassadeurs de l'Union européenne préoccupés par l'arrestation du député Ewanga, les États-Unis décident d'investir 33 milliards de dollars en Afrique. Comment la presse a analysé cette actualité? Nous allons le savoir à travers cette revue de presse que nous présente Kéline Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'affaire Ewanga. À la une du quotidien Le Phare, on peut lire affaire Ewanga, le partenariat RDC-Union Européenne menacé, Minaku pas d'accord avec le procureur général de la République. La construction d'un état de droit et la défense des droits de l'homme sont des éléments essentiels qui fondent le partenariat de l'Union Européenne et de la RDC, a déclaré le chargé d'affaires intérimaire de l'Union Européenne Bruno Anses à l'issue d'un entretien jeudi 7 août 2014 au Palais du peuple entre la délégation de l'Union européenne, composée des ambassadeurs de France, de Belgique, de Grande-Bretagne, avec le président de l'Assemblée nationale, Obemi Nakou. Ce face-à-face, Minaku, diplomate occidentaux, précise Le Phare, a tourné autour de l'arrestation du député national et secrétaire général de l'UNC, Jean-Bertrand Ewanga, au lendemain du meeting de l'opposition en Chili. Bruno Anses a réaffirmé l'importance que l'Union européenne attache aux droits de l'homme et aux libertés publiques. Retombée des démarches des ambassadeurs occidentaux et des députés de l'opposition, Jean-Bertrand Ewanga quitte Makala pour l'Hôtel Invest, informe par ailleurs Forum des As. Selon le quotidien, les diplomates français, belges, anglais de l'Union européenne se préoccupent du cas du cadre de l'UNC mieux. Ils s'en mêlent. Reçu par le président Obemi Nakou, les diplomates précités plaident pour un respect mutuel entre les acteurs politiques congolais. L'Avenir rapporte pour sa part que, des sources sûres, nous apprenons qu'après que le secrétaire général de l'UNC ait été conduit à Makala, sur instruction du président de l'Assemblée nationale et par respect à l'arrêt rendu par la Cour suprême de justice, il a été ramené en résidence surveillée à l'hôtel Invest dans la commune de Lingwala. C'est ici qu'il va attendre sa comparution pour son éventuel condamnation ou relaxation. Voilà qui met un terme à une polémique manœuvrée de toutes pièces par une main noire qui n'a pas fini de rendre ses comptes à la République. Quittons la RDC pour nous rendre aux États-Unis d'Amérique où s'est tenu le premier sommet USA-Afrique. Forum des As nous informe que le président Obama a annoncé mardi 5 août 33 milliards de dollars de nouveaux engagements, aides publiques et investissements privés en faveur de l'Afrique qui contribueront au développement du continent africain et à la création d'emplois aux États-Unis. Sommet USA et Afrique, l'Amérique tient à devenir le premier partenaire économique, note Le Phare pour sa part. Il va sans dire que l'on s'y attendait un peu, car jusqu'ici, aux yeux des Américains, ce sont les pays européens et asiatiques, dont particulièrement la Chine, qui s'étaillent la part du lion dans le domaine des échanges commerciaux avec ce qui est considéré comme le berceau de l'humanité.
Merci Kéline Kouté. Un commentaire à Baudouin Saïle Mbalanga, éditeur du journal La Chopo qui paraît à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi cette recommandation de M. Martin Kobler à l'endroit des FRDC et de la MONUSCO de pouvoir lancer des attaques conjointes contre ceux des FDLR qui ne veulent pas déposer les armes.
Le problème des FDLR, ça date de 24 ans. Depuis 1994, lors de l'assassinat du président Habyarimana jusqu'à aujourd'hui, C'est à peu près 20 ans. 20 ans de tourbillons, 20 ans de guerre, 20 ans d'assassinats, et quand qui vous. Si réellement les pouvoirs de ce monde peuvent se mobiliser comme un seul homme, mais les FDL n'ont plus de puissance de résister. Qu'on passe directement à l'action, on a déjà demandé aux FDLR de déposer les armes. Et parmi ceux qui ont compris, il peut être il y a 200 qui ont déjà rendu les armes et qui sont prêts pour rentrer chez eux. Ils doivent rentrer chez eux. Et en ce qui concerne les téméraires, les décideurs de ce monde peuvent faire un effort, comme ils ont fait le pas passé. Le MM là avait pris Goma, avait pillé Goma, un nom devenu de quelque part. Ils ont quitté Goma pour se retrancher dans les zones rurales. Et aujourd'hui, il n'existe plus que des noms. Les décideurs, s'ils aiment vraiment ce pays, s'ils veulent mener le Congo, tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour bouter hors des territoires nationaux des malfrats.
Merci.
Les FDR ne sont pas des Congolais, ce sont nos frères. Nous le disons comme ça, ce sont nos frères, même s'ils arrivent à nous tuer ici. Les FDR sont des Rwandais. Le décideur de ce nom doit dire au président du Rwanda de se réunir avec les Tutsis, avec les Hutus, avec les Twa, ensemble au cours d'une conférence nationale Made in Rwanda.
Merci.
Pour qu'ils arrivent à traiter leurs problèmes au Rwanda. Nous n'avons pas de problème avec le Rwanda.
Merci.
Nous ne sommes pas contre le Rwanda. Il faudrait que le Rwanda puisse se mettre aussi un peu d'eau dans son vin pour récupérer ses frères Hutus. Et ensemble, le Rwandais ou toutes ces toits doivent évoluer pour le développement de la République du Rwanda. Voilà.
Merci John Ngomboa, directeur des informations Antenne A, télévision qui émet depuis Kinshasa. L'autre actualité, c'est l'annonce faite hier par le ministre de l'EPSP qui dit que le gouvernement s'engage à améliorer les conditions de l'enseignant en RDC. Selon Makaire Mwangu, la révision à la hausse de la cagnotte de l'éducation dans les budgets de l'État, qui est passée à 16%, permet d'améliorer les conditions salariales de l'enseignant.
Oui, je vais être jugé parti quelque part parce que je suis fils d'enseignant, donc je me sens concerné au premier plan, mon père et ma mère étant enseignants. Je pense que le ministre Makaire a beaucoup de bonne volonté, mais à ce jour, la fonction d'enseignant n'a pas encore repris ses lettres de noblesse. Il y a énormément à faire. On est passé des 33 milliards de francs à 39 milliards de francs congolais des rémunérations. Mais ça veut dire que chaque enseignant va avoir combien de plus sur sa rémunération. C'est ça des problèmes. On est dans une situation où les enseignants sont souvent ceux qui ne sont pas en mesure de payer les frais d'études de leurs propres enfants. Ils savent pas envoyer leurs propres enfants à l'école. Vous voyez un peu ces paradoxes. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais je pense que à ce jour, quand vous comparez les budgets de l'État, vous regardez ce qui est affecté à l'enseignement, vous comprenez tout de suite la volonté du gouvernement de s'occuper ou non de l'enseignement, parce que la volonté d'un gouvernement s'exprime en fonction de son budget.
Voilà.
Et le budget, il est dérisoire. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce gouvernement ici a réellement la volonté de s'occuper des enseignants.
Merci, patient Debaba Lufira, secrétaire de la Synergie des médias d'Ouvira et des Fizi, et correspondant de l'ONG Journaliste en Danger, Sifia Ganlak, au Sud Kivu. Comment vous analysez l'évolution de ces processus de désarmement des rebelles FDLR?
Oui, chers confrères, nous devons dire d'abord, je voulais d'abord apporter ma réponse par rapport au message du représentant de la société RDC. Moi, je conçois cela comme étant une réponse non favorable à la manifestation de la volonté qu'on remarque dans les chefs des FDLR qui veulent déposer les armes et aller de ce fait à une table de négociation avec le régime de Kigali. Les FDLR ont été contraints à déposer les armes, ils ont dit qu'ils sont prêts à déposer les armes et par conséquent, ils ont recommandé ou demandé aux autorités de la sous-région, de SADC et TRL, de les faire inviter à table avec le régime de Kigali pour discuter les questions, les cadres avec le conflit rwandais et entre rwandais. Cela n'a pas été fait. Bon, nous allons rappeler ici qu'il y a eu une conférence à Rome où les dirigeants, les personnalités des Nations Unies et d'autres voulaient entendre les bien fondés, les raisons majeures les œuvres de l'air, je suppose qu'ils ont été compris. Est-ce que cela signifierait les siècles de la conférence tenue à Rome entre les œuvres de l'air et les autres représentants au niveau de la sous-région? Est-ce que c'est la seule voie envisagée pour défaire les œuvres de l'air? Moi, je pense qu'en tout cas, il ne faudrait pas nécessairement envisager la solution militaire, parce que cette solution a plusieurs conséquences, et les conséquences ne vont que se dérouler et se concerner sur le sol de la République de Congo, et que ce sont les Congolais qui vont en payer le prix. Je pense qu'il était en tout cas important de faire voir, encore une fois de plus, au Rwanda, au régime de Kigali, que ce régime n'a pas toujours imposé sa volonté à d'autres pays. Il faudrait que le Rwanda accepte une unité avec les jeunes de l'Est en tant que déjà là puisse partir en paix.
Merci, patient Lofira. Nous abordons notre premier thème de ce soir, arrestation du député national Jean-Bertrand Ewanga. La délégation de l'Union européenne en RDC s'est dit préoccupée. Elle est allée le dire ce jeudi au président de l'Assemblée nationale, Obin Minaku, tout en félicitant les autorités de la ville pour avoir autorisé à encadrer le meeting de l'opposition lundi dernier. La délégation de l'Union européenne estime que l'arrestation du secrétaire général de l'UNC, intervenue après, ne contribue pas à l'apaisement du climat politique. Bruno Ancens, chargé d'affaires par intérim de la délégation de l'Union européenne, est au micro d'Innocent Olenga.
Nous sommes préoccupés par l'arrestation du député national et secrétaire général de l'UNC, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, au lendemain de cette manifestation. Cette arrestation ne contribue pas à l'apaisement du climat politique. Nous réaffirmons l'importance que nous attachons au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. La construction d'un état de droit et la défense des droits de l'homme, ce sont des éléments essentiels du partenariat entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. C'est dans cet esprit que nous avons appelé les autorités de ce pays à prendre les dispositions nécessaires pour permettre l'exercice de la liberté d'expression et assurer un espace politique ouvert au débat politique.
En rapport avec l'affaire Ewanga, le président de l'Assemblée nationale demande au procureur général de la République d'exécuter fidèlement la décision de la Cour suprême de justice en demeurant dans l'esprit des termes de l'arrêt et de la loi quant à l'assignation du député arrêté en résidence surveillée. Tupac Kamango, conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale, Obin Minaku, donne des précisions au micro d'Innocent Olenga.
En fonction de l'arrêt qui a été prononcé par la Cour suprême de justice sur le point précis d'assignation à résidence surveillée en tant qu'organe de la loi et officier du ministère public, qu'il puisse l'exécuter en demeurant dans l'esprit des termes de l'arrêt et des termes de la loi. In concreto, il faudrait que l'honorable député national Ewanga Isewanga soit placé en résidence surveillée.
Mais le procureur dit qu'il n'a pas d'autre résidence. Pour lui, la résidence surveillée, c'est la prison de Makala.
Je ne peux pas m'en prendre à l'interprétation du procureur général de la République, mais je me dois d'informer que l'honorable président a informé aux ambassadeurs que dès ce jour, il va écrire au procureur général de la République pour qu'il y ait une exécution fidèle des termes qui ont été prononcés par la Cour suprême de justice. Termes qui sont dégagés d'une disposition légale qui dit qu'en matière de détention préventive pour ce qui concerne les députés nationaux, la présente mesure est remplacée par l'assignation à résidence surveillée.
Nous l'avons appris, le député national Jean-Bertrand Ewanga a été assigné en résidence surveillée à l'hôtel de presse Invest ce vendredi à Kinshasa. Selon les autorités pénitentiaires de la prison centrale de Makala et les instances dirigeantes de l'UNC sont parties, Ewanga a été escorté par une jeep de la police de la prison à l'hôtel en exécution de l'arrêt de la Cour suprême de justice qui avait demandé au parquet l'assignation en résidence surveillée. Baudouin Saïle Mbalanga, éditeur du journal La Chopo, qui paraît ici à Kinshasa, l'affaire Ewanga mobilise tout le monde. Comment vous réagissez face à l'ampleur que prend cette affaire?
Il n'y a pas d'ampleur, mon frère ami. Il n'y a pas d'ampleur. Tout tourne sur le dossier des élections de 2016. Moi, je ne peux pas comprendre, franchement, dans ce pays, nous devons essayer d'élever le temps pour un dossier qui n'est pas d'actualité aujourd'hui. L'élection présidentielle aura lieu en 2016. Si on fait des petits calculs, d'ici à 2016, il reste 2 ans et demi, mon frère ami. Mais pourquoi tout le monde, même mes frères de l'opposition, je dis l'opposition doit exister, doivent s'époumoner pour rassembler la population, pour demander à la population que d'ici à 2016, il doit partir. Écoutez, 2016 n'est pas aujourd'hui, n'est pas demain, il faut 2 ans et demi pour que nous arrivions à cette élection-là. En attendant, qu'est-ce que doit faire l'opposition ? L'opposition qui doit exister dans tout pays démocratique doit faire le contrepoids du pouvoir. En proposant, par exemple, au pouvoir, ou bien monsieur du pouvoir, vous savez que la République n'a pas un moyen de transport aérien national. La République n'a pas un avion, une compagnie nationale d'aviation. Alors nous demandons à la République d'acheter des avions pour le compte des ex-Air Zaïre. La République n'a pas de bateau qui doit couvrir l'espace Kinshasa, qui s'en gagne en passant par Bandaka, Bumba, Dissala, Bassoko, etc. Voilà les priorités, par exemple. La République est en train de s'époumoner pour payer les gens presque à l'aise, les camps des enseignants. L'opposition doit rappeler à l'autorité établie les démarches positives pour les comptes de la population. Les élections ne sont pas pour aujourd'hui. Nous avons des élections de président de la République en 2016.
Merci. Merci, nous allons vous redonner la parole. John Gomboa, directeur des informations antenne à télévision qui émet depuis Kinshasa. Vous avez suivi Baudouin Saïlé Mbalanga qui ne comprend pas l'attitude de l'opposition. Il dit que les élections c'est pas aujourd'hui, c'est dans 2 ans. Elle ne comprend pas pourquoi cette opposition doit s'agiter.
En fait, moi je dis que c'est des bonnes guerres, hein, qu'aujourd'hui l'opposition puisse anticiper sur ce qu'elle elle pressent comme fait dans les cas d'espèce, c'est la révision de la Constitution pour ouvrir un nouveau mandat pour le président Joseph Kabila. Donc moi je pense que c'est des bonnes guerres que l'opposition les fasse. Bon, quitte à ce qu'ils utilisent une méthode efficace. L'efficacité de l'opposition est sujette à caution, à mon sens. Depuis que j'analyse comment elle fonctionne, elle n'est pas tout à fait très efficace quand elle décide de faire quelque chose.
Voilà. Alors, si faut revenir à l'affaire Ewanga, les ambassadeurs de l'Union européenne se disent préoccupés par cette arrestation et estiment que cela ne contribue pas à l'apaisement du climat politique.
Oui, je pense que vu du dehors, quand on dit députés arrêtés. Les gens ne comprennent pas du tout, quoi. Hein? Les gens ne comprennent pas du tout. Je crois qu'il y a eu, dans cette histoire des Bertrand et Wanga, des fautes de forme, hein, dans la manière d'arrêter ou de détenir ou d'interpeller un député. Il a été évoqué la flagrance, mais la flagrance, on ne l'a pas exploité, c'est-à-dire prendre quelqu'un sur les faits. Et Wanga a été finalement pris chez lui à la maison par une escouade d'agents qui sont venus plus ou moins clandestinement. Mais je pense que il n'y avait rien à perdre de l'interpeller en bonne et due forme, si c'était en passant par le Parlement ou en passant par une convocation. Donc quand on gagnait sur la forme, tout pouvait être bien perçu. Maintenant, comme on le dit dans la justice ou dans le droit, la forme viciait le fond. Donc on peut dire, bon, mais l'arrestation n'était pas faite dans le respect des normes. Voilà. Donc quelque part, vu du dehors, député arrêté, ça fait pas bien. Et nous ne sommes pas seuls au monde, hein, au Congo. Nous évoluons avec d'autres sociétés. Nous devons penser à faire les choses dans les normes. Je pense que il y a des éléments matériels qui étaient cette procédure, et donc ça n'allait pas disparaître. Les propos de Bertrand et Wanga, je crois qu'ils ont été filmés, et donc c'est un élément matériel qui pouvait lui être présenté à tout instant. Et donc c'est un élu, il n'y avait pas de risque qu'il s'échappe. Donc on pouvait respecter la procédure pour l'arrêter. Je crois que c'est cela qu'on ne comprend pas, vu du dehors,
qu'un député soit arrêté parce qu'il s'exprime.
Merci Patient Debaba Lofira, secrétaire de la synergie des médias d'Ouvira et de Fizi, et correspondant de l'ONG Journaliste en Danger, et Sifia Ganlac au Sud Kivu. Les condamnations fusent de partout pour dénoncer l'arrestation du député Ewanga. Il n'aurait pas été prudent de la part du pouvoir de procéder autrement que par une arrestation. Vous avez suivi John Ngombwa qui affirme qu'il y a eu des fautes de forme dans la manière d'arrêter et de détenir ces députés.
Effectivement, nous pouvons établir qu'il y a eu des fautes, des erreurs dans la forme. Mais toutefois, il est important de rappeler qu'en matière de la procédure de flagrance, il n'est pas question de passer par la procédure normale qui demande qu'il faut qu'il y ait la levée des immunités d'un parlementaire. En fait, par rapport à l'affaire au dossier honorable Ewanga, il faut dire que la question fondamentale de la rencontre qui a donné après, qui a justifié après son arrestation, était importante, démocratique et légale, parce que l'objectif était d'informer la population congolaise sur les enjeux politiques actuels qui tendent à réviser la Constitution. Aujourd'hui, même si certains soutiennent qu'il n'est pas important de parler de la révision constitutionnelle aujourd'hui, moi je pense que c'est la question de l'heure, c'est la question qui caractérise maintenant la vie et la scène politique actuellement. La session de septembre est très bientôt là, et je suppose qu'une proposition de gouvernement dans le cadre de la révision constitutionnelle sera en tout cas soumise au niveau de l'Assemblée nationale, mais pourquoi aujourd'hui nous ne parlons pas de cette constitution? Je veux dire ici, pourquoi dans des constitutions il y a des dispositions verrouillées? C'est parce que tout simplement, ce sont des dispositions, une fois les révisées, peuvent poser de l'insécurité publique, peuvent poser des troubles au niveau interne, peuvent créer des frustrations dans les têtes de la population. Maintenant qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a cette démarche qui caractérise maintenant la majorité présidentielle dans la vie de réviser, en tout cas, je suppose qu'il est vraiment légal, et d'abord, c'est quelque chose à saluer pour l'opposition, d'élever la conscience nationale sur une telle question qui tend à la révision constitutionnelle. Nous disons, encore une fois de plus, la démarche de l'opposition était bonne, mais il faudrait voir dans quelle mesure faire passer les messages. Nous sommes dans un pays démocratique, en voie de démocratie, ça dépend de la manière dont les gens vont qualifier, mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas perdus de tout dire. Nous ne sommes pas perdus. Le président de la République, même si les gens disent que le président n'a pas bien soutenu son action, mais s'il s'avère évident que l'honorable est parvenu à proférer des paroles, soit des institutions qui tendent à l'incitation à la haine et qui font atteinte à la personne chef de l'État, en tout cas, ça, c'est pas bon, c'est pas de cette manière qu'on va construire la démocratie. En plus de cela, le chef de l'État, quoi qu'il est critiqué par les membres de l'opposition et d'autres personnes qui n'apprécient pas du tout son action, il reste président de la République, garant de la nation, symbole de l'unité nationale. Nous ne devons pas quand même montrer à la face du monde que nous sommes des gens qui ne respectent pas nos dirigeants qui nous dirigent. Il y a une autre analyse que je voulais faire par rapport à l'arrestation de l'honorable. Pourquoi le procureur de la République a entendu qu'il y ait des réactions d'ici et là, de l'Union européenne, du président de l'Assemblée nationale, pour atténuer à nouveau l'honorable dans un hôtel? Pourquoi l'a terminé immédiatement au niveau de la prison de Makala? Cela veut dire tout simplement qu'il y a lieu d'établir dans l'équipe du procureur l'influence politique qui a caractérisé cette action publique.
Merci Patient Baudouin Saïd Mbalanga. Le président de l'Assemblée nationale avait demandé au procureur général de la République d'exécuter fidèlement la décision de la Cour suprême de justice en demeurant dans l'esprit des termes de l'arrêt et de la loi quant à l'assignation de députés arrêtés en résidence surveillée. Et à votre avis, cela veut dire quoi? Qu'il y aurait de la part du PGR une mauvaise interprétation de l'arrêt de la Cour suprême de justice? Vous avez suivi Patient Debaba Lofira qui estime que les PGR auraient été influencés par des impératifs politiques.
Chers confrères, nous sommes ici dans un monde d'imperfection. Nous devons commettre des erreurs de parcours et on peut arriver à corriger. C'est pas grave. Le fait, par exemple, que le gouvernement de la République a autorisé la manifestation organisée par cette classe politique de l'opposition, c'est à applaudir. Le fait, par exemple, que l'encadrement par la police nationale congolaise a été impeccable, c'est à féliciter. Vous comprenez? Alors, s'il y a des bordeaux quelque part, on pose l'action, et s'il y a des ratés, on corrige. Vous comprenez? Alors, si le PGR a pu réagir et que le président de l'Assemblée, qui qui est en fait l'institution, la deuxième institution de la République qui a accroché, corrigeons, évoluons dans le bon sens. Vous comprenez? Hein? Surtout dans le... Moi, j'aime mes frères de l'opposition comme j'aime mes frères de la mouvance présidentielle. Nous devons faire en sorte que la démocratie que nous avons à peine, hein, il y a à peine 24 ans, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est une démocratie qui se recherche encore avec des ratés. Alors, ne débordons pas, vous comprenez? Aujourd'hui, comme il est assigné à la résidence surveillée, tant mieux, mais je dis ceci à mes frères de l'opposition. Si on vous aime, on vous donne des conseils. Mais suivez les conseils. Nous demandons d'abord à l'opposition de s'organiser. L'opposition n'est pas organisée, à mon sens. Moi, je suis à Kinshasa, je vois que l'opposition est en train d'évoluer comme à l'époque de la conférence nationale souveraine. Chacun tire la couverture de son côté. On demande à l'opposition de se choisir un chef de file. Parce que le gouvernement de la République est toujours prêt à donner 2 millions de dollars pour le fonctionnement des partis politiques de l'opposition. Mais organisez-vous!
Merci, Saïd Mbalanga. John Gombo, tout est parti du meeting organisé par l'opposition lundi dernier à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili. Et lors de ce meeting, l'opposition avait dit non à toute tentative de révision de la Constitution, avait invité le chef de l'État à un dialogue inclusif pour organiser son départ en douceur. Comment vous analysez cette déclaration de l'opposition?
Bon, mais ils ont le droit, hein. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais prendre aussi leur désir pour des réalités, ça c'est une autre chose. Je pense que l'opposition a un problème d'organisation à l'interne, hein. Ils ne sont pas suffisamment structurés, et j'ai comme l'impression que face aux échéances qui viennent, hein, et l'opposition est en train de partir en ordre dispersé et risque certainement de perdre ses combats. Le combat, c'est lequel? C'est de faire...
Mais là, Ndjili, apparemment, ils étaient tous ensemble, hein, apparemment. Hein.
Ah oui, mais
évidemment, sauf le groupe opposition républicaine, hein, mais les restes étaient là, l'UNC, l'UDPS, les FAC, tout le monde était
mais
là.
Moi, je suis étonné, hein, que les députés Bertrand et Wanga disent que c'est le président Kabila n'était pas élu, que c'était je crois monsieur Etienne Tshisekedi qui était élu, alors que l'UNC Vital Kamerhe ne s'était pas mis d'accord avec Tshisekedi et Kengo en son temps pour faire face à Kabila.
En 2011.
Oui, en 2011. Moi, je trouve ça quand même, c'est inconséquent. C'est pas responsable du tout. C'est pas responsable du tout. À l'époque où il a fallu que cette opposition puisse se réunir face à Joseph Kabila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, je sens qu'ils sont tout sur le même chemin, hein. Ils partent toujours en ordre dispersé, et moi je ne voudrais pas être un prophète des malheurs, quoi que ce soit, mais je sens que dans ces combats ici, l'opposition va encore perdre. La majorité va parvenir à ses fins sans pour autant que l'opposition puisse faire quoi que ce soit. On se retrouvera encore en 2016 avec une opposition en train de gémir une fois de plus. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Hein. Je veux vraiment garder la tête sur les épaules. On est dans un combat politique. Vous savez, le combat politique se présente comment? Vous cherchez le pouvoir, vous l'obtenez et vous le gardez le plus longtemps possible. C'est trivial, mais c'est comme ça. Mais alors, comment, face à la majorité qui est déterminée à conserver le pouvoir le plus longtemps possible, comment s'organise l'opposition? Toujours les mêmes erreurs qu'ils sont en train de commettre. Et ils vont encore obtenir le même résultat, c'est-à-dire rien du tout.
Voilà, patient de Baba Lufira, au lendemain de ces meetings de l'opposition, le ministre de l'Intérieur avait mis en garde les acteurs politiques contre des propos incitant à la violence, mais l'opposition ne reconnaît pas avoir tenu des propos de cette nature. Et ces ping-pong n'augurent-ils pas un mauvais présage à votre avis?
Effectivement, ça c'est déjà un mauvais climat. Mais toutefois, nous devons dire qu'il faudrait féliciter les autorités de Kinshasa, bon, du pouvoir central, qui ont permis à ce que cette manifestation ait lieu. Justement, on pourrait croire avec cette coalition dynamique des acteurs politiques au niveau de l'opposition, UDPS, UNC, les autres partis politiques, okay, en tout cas une activité, c'est une réunion d'une très grande importance en fonction de la mobilisation, mais les autorités ont quand même admis que ces manifestations ont lieu. Donc, ce sont des comités. Autre chose, c'est que maintenant là, j'ai commencé par dire que l'action menée par l'opposition était une action en tout cas allouée. Et toutefois, au-delà de lieu cette action, nous devons savoir dans quelle mesure, dans quel environnement ils doivent véhiculer cette action, ils doivent passer leur activité. Par rapport au niveau, par rapport aux autorités, notamment les ministres Mouyej, que nous avions suivi à travers les hommes de fabrication, il est aussi important de lancer un message fort au ministre de l'Intérieur que c'est pas à tout moment que l'opposition veut s'adresser au niveau de la population. On doit toujours prétendre des infractions à charger pour charger, on doit toujours prétendre chercher des infractions pour charger les affaires de l'opposition afin de piquer la liberté d'opinion et de penser en tant qu'opposition, parti politique.
Merci, patient.
De faire des clés messages, de faire comprendre la philosophie, de conscientiser la population sur les questions d'ordre.
Merci, Pascal Lefebvre.
Surtout les questions liées à la révision constitutionnelle. Et pas toujours prendre des mesures, soit de mettre en place des mécanismes qui permettront à ce que les gens de l'opposition, les plaisirs d'opinion ne puissent pas dire ce qu'ils devaient dire sur le bon fonctionnement et la bonne marche de la révision constitutionnelle.
Merci, Pascal.
C'est tout simplement et ne veulent pas finir.
Merci, patient. Nous passons à notre dernier thème de ce soir, clôture mercredi dernier à Washington du sommet États-Unis-Afrique. Lors de ce sommet, le président américain a annoncé notamment la mobilisation de plus de 30 milliards de dollars à titre d'aide publique et d'investissement privé à destination de l'Afrique. Barack Obama appelle aussi les dirigeants africains à créer un environnement politique et économique propice aux affaires. Le sommet États-Unis s'est clôturé mercredi dernier à Washington avec une promesse du président américain d'investir en Afrique. Parmi les retombées de ce sommet, mais Barack Obama annonce un montant de 33 milliards de dollars, dont 12 consacrés au programme Power Africa. Ces programmes visent à terme à doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Samuel Kachak.
Mettant en avant cet engagement de 33 milliards de dollars et devant un parterre de dirigeants et d'hommes d'affaires, le président américain a annoncé que des entreprises américaines, Marriott, Coca-Cola et General Electric notamment, s'étaient engagées sur des investissements d'un montant total de 14 milliards de dollars dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'hôtellerie, de la construction, de la banque ou encore des technologies de l'information. Le secteur privé a aussi augmenté ses promesses d'investissement dans le cadre du programme Power Africa qui vise à terme à doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Au total, en prenant également en compte les apports de la Banque mondiale et du gouvernement suédois, 26 milliards de dollars sont désormais mobilisés sur ce projet. Après avoir mis en avant les chiffres, Barack Obama a longuement insisté sur la responsabilité pesant sur les épaules des dirigeants africains. Pour lui, aussi cruciaux que soient ces investissements, la clé de la prochaine ère de croissance en Afrique ne se trouve pas aux États-Unis, mais en Afrique, a-t-il martelé. Le capital est une chose, les programmes de développement sont une chose, mais l'état de droit est encore plus important. Les gens doivent être capables d'envoyer des biens sans payer un pot de vin ou embaucher le cousin de quelqu'un, a-t-il ajouté. Le président américain s'est dit confiant dans le renouvellement et la modernisation du principal outil d'échange entre l'Amérique et l'Afrique, l'AGOA. Lancé sous la présidence de Bill Clinton, ce programme américain accordant des avantages commerciaux à certains produits africains expire fin 2015.
John Gombo, je rappelle que vous êtes directeur des informations à Antenne A, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. 33 milliards de dollars, montant que les États-Unis voudraient investir en Afrique, est-ce suffisant?
Non, c'est pas suffisant. Il faudra beaucoup plus, hein. Il faudra beaucoup plus parce que ça correspond à quoi? À rien du tout. Mais encore, moi, je pense que en ce qui concerne les sommets États-Unis, Afrique, eh bien, à mon sens, la montagne a accouché d'une souris.
Pourquoi?
Ben oui. Il y avait énormément d'attentes, hein. Si vous prenez seulement les cas du Congo, il y avait énormément d'attentes. On attendait déjà, entre autres, que le président
Obama destitue le président Kabila. On attendait que...
Qui attendait?
Mais ici, à Kinshasa, il y a eu une grosse opinion. Hein. Finalement, je crois qu'il a amené dans la distraction. Il y avait une grosse opinion autour du sommet de Washington au cours duquel le président Obama devrait dire ses quatre vérités au président Kabila. Question de lui dire, monsieur, écoutez, il ne faut plus en 2016 vous représenter, sinon les États-Unis d'Amérique vont, ainsi de suite. Alors, cela a tellement focalisé les débats qu'on a oublié qu'autour, il y avait quand même un soubassement économique très important. On n'a pas préparé les dossiers, on est allé avec des préoccupations politiques, les uns pour attaquer, les autres pour défendre. Hein. Parce qu'il y a eu aussi, évidemment,
une délégation
de l'opposition, mais qui n'a pas participé au sommet, mais qui était concernée par les forums, parce qu'il y avait un forum avant et tout ça. Alors, vous comprenez que par rapport au Congo, par rapport à la République démocratique du Congo, eh bien, la montagne a accouché d'une souris, parce que de ces 26 milliards, rien de précis n'a été dit pour Inga 3, du dispositif militaire africain. C'est le Rwanda qui a été désigné, et l'Ouganda qui a été désigné, et pas la RDC. Et le Congo a été faire quoi là-bas? Donc voilà pourquoi j'ai dit la montagne a accouché d'une souris.
Merci Baudouin Saïlé Mbalanga, éditeur du journal La Chopo, qui paraît à Kinshasa. Selon John Ngombwa, le sommet États-Unis-Afrique a accouché d'une souris, étant donné que les attentes étaient nombreuses, mais malheureusement, ces attentes n'ont pas été satisfaites.
Mon frère, quelle attente! J'apprends que le Gabon exporte du bois, le Gabon attrape des devises à travers l'exportation du bois, comme le Congo aussi a du bois. La Libye exporte du pétrole, attrape des milliards à travers le pétrole, comme aussi nous avons du pétrole. Le Mali dispose d'un sous-sol riche qui contient de l'or, des diamants, comme aussi nous avons de l'or et des diamants, des cobalt, etc. La main qui donne, c'est cette main-là qui nous supérieure à la main qui reçoit. Vous comprenez? Je félicite les Chinois à partir du mot d'ordre de Mao Tse-Tung qui dira, il y a de ça quelques années, l'esprit de Yukong. Et l'esprit de Yukong, c'est entre autres comme l'amour du travail bien fait. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de bousculer l'économie mondiale. Voilà l'exemple à suivre. Nous n'avons pas le temps d'attendre 33 milliards de dollars de la part de qui que ce soit. Nous avons des milliards chez nous. Et c'est pour cela que nous disons, nos ennemis qui nous cherchent toujours noises doivent nous laisser tranquilles. Comme dans le Grand Kivu, il y a la calmité qui commence à aller, nous allons aussi mettre hors d'état de nuire ceux qui cherchent de déstabiliser le Katanga. Donc avec la paix retrouvée, le Congo est capable, avec une politique de bonne gouvernance, de résoudre les problèmes internes. Nous avons le diamant que Dieu nous a donné, l'or, etc. Même le fleuve Congo ici, si nous achetons des bateaux de pêche, les pieux du Vaux-Chomère, c'est ça. Vous comprenez? Donc, avec l'effort de tout le monde, avec la volonté de tout le monde, la mouvance présidentielle, l'opposition, etc., la société civile, le Congo est capable de se prendre effectivement à charge. Respectons les institutions de la République, respectons les biens que Dieu nous a donnés.
Merci.
Dieu nous regarde, il dit, oh, mes enfants, qu'est-ce qu'ils attendent pour bouger? Voilà.
Merci, Patient Debaba Lofira. Je rappelle que vous êtes secrétaire de la Synergie des médias d'Ouvira et des Fizi, et correspondant de l'ONG Journaliste en Danger, Sif à Grand Lac au Sud Kivu. Vous avez suivi John Ngombwa qui a estimé que le sommet a accouché d'une souris, étant donné qu'il y avait beaucoup d'attentes, n'est-ce pas, qui n'ont pas été satisfaites. Vous venez sur le vieux Saïlé Mbalanga qui affirme que nous n'avons pas à attendre 33 milliards de la part des États-Unis parce que nous-mêmes, nous sommes à mesure de les produire.
Effectivement. Les attentes, je perçois cette question comme étant des attentes politiques compte tenu de la situation actuelle de la résidence Congo. Les attentes de la population étaient des attentes politiques vis-à-vis du régime en place. Mais ce qu'il convient de noter, que le sommet était beaucoup plus économique que politique. Ça, il faut être clair. Ce n'était pas un sommet politique, mais plutôt économique. seulement parce qu'il était question de parler à faire. Les notions de la démocratie, bonne gouvernance, c'était des notions secondaires par rapport, en tout cas, ce n'était pas des aspects prioritaires par rapport à ce sommet. C'était économique d'abord. Et donc, nous estimons en quelque sorte c'est un sommet qui risque de consacrer, ou soit d'officialiser, de consacrer à certains régimes de se maintenir davantage au pouvoir, surtout dans les pays africains où il y a des turbulences liées à la révolution fonctionnelle. Autre chose, ce qu'il faut dire par rapport à ce sommet, effectivement, lorsque les partis, les États sont à des rencontres pareilles, chaque État vise à tirer son épingle du jeu. Chaque État vise à récupérer ce dont il va gagner dans ce sommet. Il y a 33 milliards de dollars en jeu. Il y a les fonds publics des États-Unis, il y a les investisseurs étrangers qui ont placé aussi leurs fonds afin d'investir en Afrique. Nous avons plusieurs potentialités, nous avons plusieurs domaines, plusieurs aspects dans lesquels les investisseurs américains ou les gouvernements américains peuvent investir. Les conseils viennent de rappeler les potentialités de la République du Congo qui ne le sait pas. Nous l'avions tous appris dans la géographie, bon, le débat n'est pas sur ce niveau, mais il y a aussi un problème. Je voudrais revenir par rapport aux attentes politiques que les Congolais attendaient de ce sommet. On ne sent pas dans le chef du gouvernement américain, à l'occurrence de Barack Obama, les menaces qu'il a brandies, les menaces que les États-Unis brandissent pour les États qui ne vont pas respecter les processus de démocratisation, le respect des droits de l'homme. Voilà ce dont à quoi on attendait à ce sommet par rapport aux aspects politiques. Effectivement, à ce qui concerne la situation économique, on attendait que nous puissions avoir une idée, espérons que ça sera le cas dans les prochains jours, nous puissions avoir une idée par rapport aux avantages que la RDC va tirer du sommet. Nous connaissons tous les potentialités dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du format des infrastructures, construction du consort, exploitation des minerais. Nous voudrions que ces fonds puissent profiter à l'amélioration des conditions de vie de la population. Merci. Notre question reste à soulever. Est-ce que nous sommes d'abord à mesure de gérer en bon père de famille les potentialités que nous avons, les ressources que nous avons, la gestion de la chose, est-ce qu'elle est en tout cas équitable, est-ce qu'elle est de manière rationnelle? On nous parle aujourd'hui du cadre macroéconomique, sans pour autant nous dire les éléments constitutifs du cadre macroéconomique. Et qu'en fait, à quoi s'améliore le système de justice du Congolais? À quoi est-ce que ça contribue en termes de quantification? Parce qu'on ne doit pas dire que
Merci, patient. John Gomba, comme mot de la fin, pourquoi, à votre avis, le chef de l'État américain n'a pas profité de ces sommets pour exprimer, n'est-ce pas, sa désapprobation vis-à-vis de certains projets qu'auraient certains chefs d'État africains à pouvoir réviser leur constitution?
Barack Obama est fin mandat. Et il n'aura pas d'ici là le pouvoir d'État. Et ensuite, les chefs d'État des États africains, ils sont souverains et bel et bien chefs de leurs États. Je crois que de ce point de vue, on se dit, personne n'a de leçons à donner à personne.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la technique et Kaline Kouté à la réalisation. Sous la supervision de Martin Sebou Djangwe, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capique.